Chapitre 65. Solman fut submergé par un dégoût profond de lui-même qui lui rappela les violentes manifestations de rejet de Khadija dans la remorque. « Voici ce que tu as été et ce que tu ne veux plus être, » murmurait le Verbe. « Une créature souillée, infectée, emplie de fureur, un rejeton du serpent. » Des bribes de son passé traversaient son cerveau creux, des courants lointains et glacés. Les jugements silencieux dans l'ombre de l'attente des pères et mères du conseil, les nuits porteuses de chagrin, les jours consumés par la solitude, les désirs frustrés d'entrer dans les farandoles enfantines, les mesquineries quotidiennes, les rancœurs, les trahisons, les vengeances, la recherche éperdue d'un partage impossible. Mille et une raisons de les haïr, de se haïr. Mille et une raisons de répudier cette humanité dérangeante, ingrate. Mille et une raisons de la condamner à l'oubli. Reçois maintenant le sceau des justes, des rachetés de la terre. Tu ne connaîtras plus la malédiction, ni la maladie, ni l'abomination. Ni le mensonge, ni la séparation. Les images et les sensations s'arrachaient de lui comme des feuilles mortes. Le tourbillon s'arrêta sur le visage de Rahima la guérisseuse. Il la revit avec toutes ses souillures, avec son regard intense au milieu des excroissances qui la déformaient, qui l'avilissaient. Avec elle, il avait connu l'échange magnifique, bien qu'écourté par ses propres démons. Avec elle, il avait entrevu l'autre humanité, la famille du don, de la générosité, de la tendresse. Avec elle, il avait puisé dans la souffrance des raisons d'espérer. En elle, il avait baigné dans l'humanité éternelle, dans cette eau troublée par la vase où le soleil ne pénétrait pas. Elle semblait n'être venue sur terre que pour donner un prix à sa vie, à leur vie. Et la splendeur de son souvenir rejaillissait sur les hommes et les femmes qui avaient jalonné l'existence de Solman. Wolf, son père et ange gardien. Mirgwan, sa mère à peine entrevue. Moram, l'ami fidèle. Glenn, le petit frère. Ismaïl, le grand-père malicieux. Et tous les autres, Elaine l'ancienne, Aura, la jeune sourcière. Chak, le chauffeur trahi par ses obsessions. Laure, la petite Léote, victime de son courage. Adeline, la jeune femme désespérée par la mort de son enfant. Guenuver, Irwan, Loïc, Orgwan, Joiner, les pères et mères enivrés de pouvoir. Catherine, la sœur sacrifiée. Les Slang, affligés par l'empoisonnement des leurs. Les Cheuln, piégés par les vieilles illusions. Tous les nomades qui erraient sur les territoires de l'Europe en quête de lendemains impossibles. Rahima la transgénosée était le fil par lequel la trame humaine se reconstituait, se consolidait. Alors Solman se ferma à la supplique doucereuse du Verbe et déploya sa vision. Elle s'étendit aux confins de l'espace et du temps. Elle l'emmena sur les champs de bataille de la Troisième Guerre mondiale, dans les cités surpeuplées assaillies par les insectes génétiquement modifiés, dans les rues dévastées, dans les colonnes humaines disséminées sur les routes, au-dessus des maisons en flammes, des charniers débordant de cadavres, des fosses comblées de soldats foudroyés. Il vit des avions déverser leurs chapelets de bombes, de gigantesques champignons de fumée s'épanouir dans l'air incendiaire, des bataillons de solbo quadriller les territoires, semer des mines, achever les blessés, réduire peu à peu les terres en cendres. Le chant de l'intelligence destructrice résonnait en sourdine dans le fracas des explosions, dans les crépitements des armes, dans les gémissements des agonisants, dans les bourdonnements des insectes, dans les aboiements des hordes de chiens lâchés sur les rescapés. Il s'élevait également dans le silence des mers, des fleuves, des sources, des ruisseaux, dans les reptations des anguilles chargées de contaminer les eaux. Le chant de l'escato. Le chant de la fin des temps. Sa vision projeta Solman avant la guerre, au cœur d'un désert, sur un ancien aéroport transformé en astroport, protégé des regards indiscrets par une haute palissade et un toit de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Des milliers de passagers embarquaient dans des fusées rutilantes. À cela, une partie des justes élus par l'escato serait épargnée les tourments de l'apocalypse qui allait déferler sur le monde et mettre un terme à la civilisation de l'horreur. À cela, comme aux autres justes répartis dans les 11 stations sous-marines et cités souterraines, était promise la récompense des purs, des persévérants, l'immortalité. Quelques jours avant l'embarquement, on les avait marqués du sceau. Une combinaison de gènes qui remodelait le corps, assurait la jeunesse éternelle, effaçait la mémoire et délivrait les connaissances nécessaires à leur long séjour dans l'espace et à leur retour sur Terre. L'escato. Solman se retrouva parmi des hommes et des femmes rassemblés dans une salle claire, éduqués dans le culte de leur propre importance, de leur propre puissance. Ils affirmaient que la science avait désormais la capacité d'accomplir les volontés divines exprimées par le livre. La population terrestre, en constante augmentation, risquait un jour ou l'autre de déborder comme un torrent gonflé par les pluies, d'emporter dans l'oubli la formidable accumulation de données génétiques et informatiques, de réduire à néant une œuvre qui avait pris racine dans les temps reculés de la découverte du feu. Comme l'avait souligné Ismaïl, de nombreux prophètes s'étaient succédés entre le début du XXIe siècle et les premières convulsions annonciatrices de la Troisième Guerre. L'escato n'était pas un prophète à proprement parler, mais un groupement d'individus qui s'était déclaré éclairé, visionnaire. Un cercle formé au début de l'ère industrielle, d'essence chrétienne, qui avait interprété, à la lueur de l'Apocalypse, l'avènement de la science comme l'étape finale de l'évolution humaine, comme l'émergence d'un nouvel être, d'une nouvelle élite. Lors des Première et Deuxième Guerres mondiales, l'escato avait observé attentivement les mécanismes d'anéantissement des masses, soutenant l'un ou l'autre camp, selon ses intérêts ou ses besoins du moment. Les nazis, quand il s'était agi de concevoir les camps de la mort, les Américains dans leur décision de lancer la bombe atomique sur le Japon. Il en avait tiré une série d'études, secrètes bien entendu, préconisant les armes génétiques, insectes génétiquement modifiés principalement, la modification du climat, la pollution généralisée, l'empoisonnement systématique des eaux. Puis, sous l'impulsion de ses membres les plus extrémistes, il était passé à la phase concrète de son projet. Le choix des 144 000 justes avait soulevé une question très vite tranchée par les financiers. Mériterait d'être racheté, outre les indispensables scientifiques et techniciens, ceux qui, quelle que fût leur religion, pourrait acquitter un droit d'entrée fixé à 100 millions de dollars ou d'euros, les monnaies les plus prisées de l'époque. Les programmes génétiques s'emploieraient à corriger les déviances, à rendre leur virginité aux âmes égarées. L'argent recueilli servirait à financer les diverses unités de recherche, la construction des cités sous-marines et souterraines, l'achat de fusées à la NASA ou à l'Eurospace, l'assemblage de la station orbitale de Benjamin, la tribu de l'espace chargée de réguler le climat. Haut placé, introduit dans les arcanes du pouvoir, les missionnaires de l'escato n'avaient rencontré aucune difficulté à recruter 14 000 scientifiques parmi les plus brillants de l'époque et les moins scrupuleux, et 130 000 adeptes prêts à débourser 100 millions de dollars ou d'euros pour satisfaire un désir d'immortalité aussi vieux que le Big Bang. Ils venaient de pays différents, d'horizons différents, politiques, économiques, artistiques ou religieux, mais tous se ressemblaient par leur appartenance au cercle restreint des élites. tous se rejoignaient dans le mépris de ces masses dont ils tiraient leur subsistance. Tous désiraient prolonger leurs privilèges à travers le temps. Tous adhérèrent au principe de l'Apocalypse, du jugement dernier, de la destruction totale de la civilisation humaine, puis de la métamorphose de la Terre en un nouvel Éden. Profondément marqués par les dogmes des religions du livre, tous acceptèrent la génétique et l'informatique, les deux sciences de l'infiniment petit, de l'infiniment puissant, comme le moyen nécessaire de concrétiser les prophéties. Ils se répartirent en 12 tribus, par affinité ou par nécessité. Judas, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé et Siméon se retirèrent dans les cités souterraines d'Europe ou d'Amérique. Lévi, Issachar, Zabulon et Joseph dans les cités sous-marines de l'Atlantique et du Pacifique. Benjamin dans la station en orbite autour de la Lune. Les anges, les serviteurs repêchés dans les couches un peu moins fortunées de la population, subirent leurs modifications génétiques et se tinrent prêts à intervenir. L'Escato sonna le début de la Troisième Guerre mondiale en organisant lui-même le bombardement atomique de Pékin, une ville de l'axe PMP, puis celui de Delhi, une cité de la coalition IAA. Il lâcha ensuite ses cohortes de solbos, d'insectes génétiquement modifiés et de chiens sur les foules paniquées, et introduisit les anguilles génétiquement modifiées dans les océans, les fleuves et les rivières. Une chaleur vibrillonnante se diffusait dans le réseau sanguin de Solman. Le verbe qui l'investissait n'était rien d'autre qu'un programme génétique et informatique implanté dans le corps de chaque saint. Une intelligence tapie dans les cellules, cryptée, vigilante, connectés aux satellites, aux mouvements de la planète, aux animaux génétiquement modifiés, aux anges. Le verbe reliait Solman à Benjamin, mais pas aux autres tribus. Pas encore. Jusqu'alors, chacune des 12 tribus chargées d'une mission précise avait vécu en totale autarcie, à la fois pour garantir sa sécurité, éviter les contaminations, les doutes de Benjamin, par exemple, et préserver la pureté de l'enseignement. Aujourd'hui était le jour de leur réunification, le jour où le Verbe se révélerait dans toute sa splendeur et multiplierait sa puissance par 12 fois 12 000, le jour où les justes, les marqués du sceau, prendraient possession de leur Éden, de leur demeure éternelle. Un coup de tonnerre ébranla l'air, un éclair jaillit de la construction, et le cantique, à nouveau, s'éleva dans la poitrine et le cœur de Solman. Les voix étaient innombrables, comme si une foule immense avait pris possession de lui. Il eut une brève sensation d'éblouissement. Un feu brûlant se propagea dans son corps, et il fut raccordé aux 11 autres tribus. Elles n'avaient pas besoin d'être rassemblées dans un même lieu, comme l'avait cru Khadija. Le rempart de la Jérusalem nouvelle était la terre entière, 11 portes, les entrées des cités sous-marines et souterraines, la 12e, la forêt de l'Île-de-France, la porte de Benjamin. L'Escato se dévoilait maintenant dans toute sa dimension. Maître des terres, des cieux et des eaux. Judas, Ruben, Gad, Aser, Nephtali, Manassé et Siméon avaient reprogrammé le monde végétal, animal et minéral afin de parer la terre de ses vêtements de noces. Lévi, Issachar, Zabulon et Joseph avaient rendu leur limpidité originelle aux eaux grâce aux myriades de poissons et de crustacés génétiquement modifiés. Benjamin avait ramené de l'espace un climat à la douceur éternelle. Il restait encore des poignées d'hommes dans l'Éden des saints, sur les continents d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Certains retournaient à l'état sauvage, d'autres conservant un semblant de technologie. Les satellites renvoyaient à Solman les images de petits groupes pourchassés par des hordes d'animaux, errant sur des territoires en pleine métamorphose. Déserts qui s'habillaient de végétation, plaines qui se couvraient d'une herbe tendre et de buissons fleuris. Marécages qui reprenaient vie et jungles qui s'aéraient sous l'action inlassable des mammifères, des poissons, des insectes et des micro-organismes. Certains de ces hommes avaient la peau foncée, d'autres la peau cuivrée, d'autres la peau blanche. Ils allaient nus ou vêtus de bardes, équipés d'arcs, de lances, de haches de pierre ou d'armes à feu récupérées sur les champs de bataille de la Troisième Guerre mondiale. Parmi eux, les aquariotes et les rescapés Schöln terrés dans le bunker des ruines de Tours. Les scatos, surpris par leur résistance, les pourchasseraient jusqu'à ce qu'ils aient entièrement disparu de la surface de la Terre. De sa Terre. Solman s'accrocha à eux, à ces hommes, comme à des rochers, pour résister au courant qui l'emportait. À eux aussi, à eux surtout, il se sentait relié. Le Verbe n'avait pas encore effacé sa mémoire humaine. Le Verbe avait renoncé aux notions telles que la compassion, et pourtant, il avait établi sa légitimité sur un livre qui prônait la compassion. Il n'en avait retenu que la partie finale, cette prophétie apocalyptique qu'il avait interprétée à la lettre sans jamais l'éclairer à la lumière des paroles de Jésus de Nazareth. « Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. » Ces hommes et ces femmes de l'ancien temps s'étaient accaparés les notions d'élite, de sainteté et de jugement. Le sort qu'ils avaient attribué au plus petit d'entre eux, la misère, la maladie, la mort, c'était à eux-mêmes qu'ils l'avaient réservé. Ils avaient refroidi ce feu originel dont ils se prétendaient les enfants uniques. Ils avaient répudié leur humanité, effacé leurs désirs et leurs mémoires pour jeter un voile d'oubli sur leur immense culpabilité. Celle-là même qui avait rongé Benjamin dans sa station spatiale, qui l'avait poussé à déléguer deux de ses sœurs pour exhumer la cause occulte de ses interrogations. Solman avait perçu cet élan la première fois qu'il avait croisé Khadija. Cette aspiration fondamentale à briser le rempart d'amnésie érigé par l'escato, à se réinsérer dans la trame d'origine. Bien que tout puissant, le Verbe présentait des failles. Il n'avait rien capté du cheminement intérieur de Solman. L'homme repêché par Benjamin. Le doute matérialisé devant lui. La vision des donneurs filait entre les mailles serrées de son filet. Les sciences de l'infiniment petit n'étaient que de pâles imitations de la fluidité infinie de l'esprit. Et puis, l'escato était conçu sur le modèle informatique, donc sur la transmission instantanée des données. Qu'un seul de ses membres lui inocule une nouvelle information, un virus, et c'est l'ensemble de la chaîne qui serait contaminée. Solman sortit de l'alignement et se dirigea vers Moram, tétanisé au centre de l'espace, entre les appareils et la bâtisse cubique.
« Qu'est-ce qui se passe, bordel ?»
hurla le chauffeur. Solman débordait d'amour pour lui, comme il débordait d'amour pour tous ses frères humains, pour tous les petits de la Terre. Les défenses de l'escato, qu'il sentait se déployer en lui comme des pulsions inhibantes, étaient impuissantes à tarir la source de la compassion. « Je suis un donneur, » dit Solman avec un sourire radieux. « Ils m'ont convié à prononcer un jugement. Mon dernier jugement. J'ai cru que tu les avais rejoints, ces tarés. Tu t'es foutu à poil, tu t'es placé à côté de Khadija et... de drôles d'insectes lumineux se sont posés sur toi. J'avais une putain d'impression de voir ton corps se modifier sous mes yeux. Ton revolver est toujours chargé? Évidemment. Mais tu m'avais dit que ce genre d'arme, j'ai eu tort. Elle va nous servir.
À quoi?
Solman désigna les seins alignés à côté des appareils. L'escato avait maintenant compris ses intentions et concentré toute sa puissance dans la métamorphose de son corps, dans l'effacement de sa mémoire. À exécuter la sentence.
Quelle sentence ?
Nous allons leur offrir le baiser de paix, Moram. Le baiser de la mort.